Donc Alexandre Méniaud, Sogeti France, donc je suis chef de projet, et Frédéric Cupélian qui est développeur mobile, domaine de la mobilité.
Bon, moi je suis David Bourail, donc je suis ergonome et doctorant en ergonomie des jeux vidéo à Ludotique. Puis aujourd'hui on va vous parler d'un serious game pour sensibiliser aux problèmes des déficients visuels. Donc c'est plus un projet serious game parce qu'il n'est pas encore fini. Et voilà, on va surtout vous parler de la démarche et de la coopération entre deux entreprises qui partent de rien pour faire un serious game. Laissez la parole à Alexandre.
Donc, vite fait pour vous présenter l'entreprise. Donc, Sogeti, c'est une filiale du groupe Capgemini, donc qui est présent à l'international, donc qui est un des leaders dans les services informatiques et précisément dans le domaine de l'applicatif et des infrastructures. Donc, en quelques chiffres, Sogeti, c'est 20 000 professionnels dans le monde et 6 200 en France. Et on est présent sur Sophia Antipolis avec 120 professionnels dont on fait partie. Voilà. C'est à moi. Je fais un petit focus sur la mission handicap, qui est une entité de Sogeti, donc qui a permis de réaliser le serious game qu'on vous présente aujourd'hui. Et l'entité mission handicap, donc elle est là au sein de Sogeti pour favoriser l'insertion professionnelle des travailleurs donc handicapés, et justement de sponsoriser, de promouvoir un petit peu toute initiative via des projets innovants. Donc on est en plein dans le sujet. Voilà.
Merci. Donc, moi, pour ma part, je viens de Ludotique. Donc, on a un cabinet d'experts en ergonomie. On n'est pas nombreux, on est 6. Et on a toujours eu un lien fort avec le vidéoludique, hein, ça se sent dans le nom. On a un département R&D où on fait projets de gamification, des projets de serious game. C'est vrai que l'idée de serious game est assez naturelle à l'entreprise. Et c'est justement en 2011, avec une rencontre avec Sogeti, que le projet a pu naître. Hein. Donc, il y avait eu cette idée ludotique et le partenariat avec Sogeti dans le cadre de l'émission handicap qui a pu donner naissance au projet. La particularité du projet, c'est que il est autofinancé, donc on n'a pas d'objectif de vente ou de pression commerciale. On est vraiment libre, que ce soit sur les concepts ou sur les techniques à adopter, quoi. Donc juste, pourquoi faire un serious game sur les problématiques de déficience visuelle? C'est que les déficients visuels, pour vivre, pour se déplacer dans la rue, etc., ils utilisent plein de repères, d'indicateurs, hein, que ce soit une bande au sol, les poteaux parlants. Et ces indicateurs-là, ils sont souvent méconnus des autres personnes. C'est assez paradoxal parce que les éléments qui sont les plus importants pour les déficients visuels sont invisibles aux yeux des autres personnes. Donc, des petites actions comme mal garer sa voiture sur le passage piéton, laisser ses rétroviseurs ouverts côté trottoir, qui peuvent paraître minimes, ridicules pour nous, rendent vraiment la vie insupportable pour les déficients visuels. Donc, c'est de là qu'est née tout simplement l'idée de faire un serious game pour les malvoyants. Alors, pourquoi un serious game en particulier? Pourquoi pas faire un BD? Pourquoi pas faire une affiche? Pourquoi pas faire un mini-film? C'est tout simplement du fait que les gens, ils cherchent pas d'eux-mêmes à être sensibilisés à quelque chose. Ils vont jamais aller vers le message. De même, on est parti du principe que un message, si on leur impose, avec une forme abstraite, il y a toujours une forme de réticence, un côté moralisateur, une vision condescendante de « faut pas faire ça ». Donc c'est pour ça qu'on passe par les mécaniques de jeu, hein, le jeu qui, finalement, un facteur motivationnel en chaque être humain. Et c'est en jouant qu'on va découvrir ce message pour l'intégrer. Donc c'est ce que je disais. Pourquoi un serious game? C'est parce qu'un serious game, le joueur fait lui-même l'expérience des règles, hein, c'est sa propre initiative, il perçoit finalement le message comme beaucoup moins moraliste, comme beaucoup moins condescendant. Et enfin, un dernier point, c'est que le jeu, contrairement à d'autres médias, peut véhiculer un message en manipulant ses règles, de façon beaucoup plus marquante. Donc, c'est un théorème qui est défendu par beaucoup de game designers, comme Ian Bogost, ou entre autres Brenda Brathwaite, qui a fait un petit jeu assez rigolo pour montrer que, avec des règles très simples, on peut vraiment marquer et avoir un message puissant. Donc là, ces règles, c'était, on a des petits trains et des pions, et le but du jeu, c'est de remplir le train avec les petits pions. Chaque joueur lance un dé à son tour, le nombre du dé, on remplit autant de pions que etc. dans le train. À la fin de la partie, celui qui gagne, qui remplit son train, il tire une carte, il est à destination du train, et c'est Auschwitz. Donc c'est très choquant, et ce qu'elle expliquait, c'est qu'avec des règles très simples, sans fioritures, on peut vraiment marquer les joueurs. Donc c'est un peu l'idée qu'on voulait avoir avec ce serious game. Et aussi, on voulait rompre avec une approche trop sérieuse. Aujourd'hui, on n'en aurait plus trop, mais il y a encore au début du serious game, c'était souvent assez... il y avait des serious games assez, pas comment dire ça, contradictoires, dans le sens où le jeu n'était là que comme support. Il n'était pas là pour nourrir un message. C'était juste une excuse, un espèce de côté divertissant. On peut le voir notamment dans ce jeu-là, un jeu qui est censé sensibiliser les enfants à la propreté. Mais en fait, c'est tout simplement un jeu classique, un jeu d'action de plateforme. Et c'est pas en manipulant les règles qu'on va être sensibilisé par le message. C'est tout simplement le pari est fait que oui, bah du coup, on va mettre un univers qui tourne autour de la propreté, de la saleté. Et on imagine que les enfants vont être sensibilisés. Mais c'est pas en manipulant les règles même, le jeu est juste là comme support. C'est juste une forme, on peut imaginer n'importe quel autre jeu. Donc nous, on voulait partir sur ça, sur le fait que c'est en manipulant les règles qu'on comprend le message.
Voilà. Donc le concept de ce jeu, donc un serious game qui est basé sur un jeu, enfin c'est un jeu de plateforme en 2D basé sur le tile mapping. Donc le tile mapping, c'est quoi en deux mots? Ce sont des cartes composées de petites cases en fait. Donc on a un avatar qui se promène sur ces cases-là. Donc le but premier, donc comme on l'a dit, c'est la sensibilisation au handicap visuel. Donc une des contraintes les plus les plus importantes, c'est que ce jeu soit jouable par tout type de personnes, donc déficient visuel ou non. Et donc pour ça, on a développé on a vraiment pensé une ergonomie qui s'adapte à tout. Voilà. Donc on ira plus en détail tout à l'heure. Et donc voilà, une immersion dans le monde des déficients visuels et dans le but de traduire justement toutes les petites difficultés de la vie réelle qu'ils peuvent rencontrer quoi. Voilà.
Donc on a vraiment testé divers concepts et technologies donc pour nous permettre de réaliser et d'exploiter au maximum tous les capteurs qu'on pouvait retrouver sur un smartphone ou une tablette qui est le périphérique cible pour le jeu. Et donc là, nous, au niveau de Sogeti, on a pu bénéficier de l'expertise des ergonomes, donc dans ce sujet dont l'ergonomie est un pilier, d'accord. Et donc, toute la démarche était une longue réflexion, une longue phase de tests, de proof of concept, pour arriver à établir un sujet avec une plateforme finale.
Donc juste pour revoir un peu le plan de d'où on est parti. C'est qu'on est vraiment parti, c'est la pression. On est vraiment parti d'une enquête, donc vraiment, qu'est-ce qu'est la réalité, quels sont les problèmes des déficients visuels. Puis, avec ça, on commence à faire un game doc, un cahier des charges, on crée des règles et qu'on met à jour en fonction des contraintes. Et c'est après avoir établi ce game doc qu'on fait un prototype et qu'on itère avec des tests utilisateurs. Et on va voir comment les utilisateurs réagissent à chaque prototype pour l'améliorer à chaque fois. Donc, l'idée, c'était de partir vraiment dans une situation réelle. Comment vivent les déficients visuels, comment ils se déplacent dans la rue, de traduire ces situations en mécanique de jeu. Et le pari, c'était que le joueur, en manipulant ces mécaniques de jeu, comprenne un message. Donc, on a fait des entretiens, c'est basé sur une étude du CERTU, pour comprendre globalement quels étaient les gros problèmes des déficients visuels. Hein. Donc, on a appris qu'ils se basaient surtout sur l'aspérité du terrain, qu'ils appréhendaient les objets qui faisaient peu de bruit, comme les trams, les vélos, etc. Donc je vais pas aller trop dans le détail. L'idée, c'est que du coup, des éléments comme une route sans passage piéton, pour la traduire en règle de jeu, c'est tout simplement, on fait en sorte que si le personnage du joueur essaie de traverser la route, il meurt automatiquement. Et donc le joueur doit comprendre que je suis obligé de passer par un passage piéton si je veux réussir le jeu. Donc c'est en découvrant, c'est plein de mécaniques, là j'en ai mis une très facile à décrire, mais on a mis plein de mécaniques pour que le joueur, en jouant lui-même, il comprenne l'importance de ces éléments pour le déficient visuel. Donc, les concepts de base qu'on avait pu faire émerger à l'issue de ces études, c'est qu'il fallait donner aux joueurs l'envie de faire attention au son qui nous entoure, de comprendre à identifier où on va, donner l'idée que chaque pas est un risque pour un déficient visuel. Chaque pas que je fais, où je vais aller, est-ce que je sors de la zone piéton? Comment je peux le savoir? Il faut donner aussi l'idée que c'est pas tant le nombre d'objets sur une route qui la rend difficile, qui la rend impraticable, c'est plutôt le manque de repères. Potentiellement, 15 mètres sans aucun repère, je peux être perdu, je peux faire 6 km, si j'ai une ligne à suivre, je peux être tout à fait rassuré. et les obstacles devaient prendre une forme réelle. Et donc globalement, l'idée du jeu, hein, si je la décris, c'est qu'on se déplace de case en case, on voit pas ce qu'il y a derrière les cases, et pour se déplacer, on utilise une canne, donc on peut sonder les éléments qu'il y a sur les cases adjacentes. Donc c'est comme ça aussi qu'on progresse. Comme on voulait faire en sorte que le jeu soit adapté à la fois aux déficients visuels et aux autres, forcément, c'est cette nécessité d'accessibilité a influé sur le gameplay. Notamment le fait que chaque action doit avoir un retour. Un retour auditif, visuel, donc, quoi que ce soit que le joueur fasse, il faut toujours qu'il y ait un retour. Il faut aussi le rendre le jeu vraiment intelligible. D'où le système de cases. Ouais, c'est chaud. D'où le système de cases. Puisqu'on ne peut pas faire en sorte que le joueur soit entre deux états. Le système de cases, ça permet aux différents visuels de bien comprendre à chaque instant où je suis. Des parties courtes, etc. Et surtout un challenge hypnotique pour les voyants et les non-voyants. Alors, ça, faut que je passe très vite là-dessus. C'est devant le fait que beaucoup de gens se braquent face à un serious game, puisque ça leur apparaît très condescendant, ça leur apparaît comme une version détournée du divertissement auquel ils voulaient accéder au départ. On s'est dit, si on cachait l'aspect serious avec un univers fantaisiste au départ, un univers old school, on aurait pris tous les éléments qu'on avait repérés dans l'enquête, hein, le passage piéton, on l'aurait traduit dans cet univers fantaisiste, le passage piéton en plus transformé en pont de singe, ça aurait été toujours les mêmes mécaniques, et à chaque fin de niveau, finalement, on recontextualise les éléments du gameplay dans les éléments de la vraie vie. Ça aurait permis aux joueurs de se dire, d'être attiré par l'aspect fantaisiste et de comprendre, de réassimiler chaque élément par rapport aux éléments qu'on veut lui montrer. Quoi. Le problème, c'est que les règles en soi, elles véhiculent le message. Et si on change l'environnement, l'univers, il y a fort à parier que le joueur le comprendra plus pareil. Donc cette idée, on l'a un peu écartée. C'est notamment l'idée de Rav Koster, hein, qui a dit que si on prend des règles mais qu'on les met dans notre univers, le message est complètement différent. En Tetris, en général, on attribue pas trop de messages, mais si on le met dans un univers très différent, là, c'est par exemple un bourreau, là, il y a un message, alors que c'est exactement les mêmes règles. Donc c'est pour ça que finalement, on a quand même voulu garder l'univers de la rue, de la ville, bien compréhensible.
Je laisse la parole. Oui. Alors, un petit état des lieux du jeu aujourd'hui. Donc, on se retrouve donc avec une application qui fonctionne sur la plateforme Android, donc un jeu pour smartphone et tablette, et dont le but, comme vous l'a expliqué David, donc, est de faire évoluer un avatar dans un monde inconnu, donc qui est complètement masqué, et d'utiliser un joystick virtuel pour à la fois se déplacer et sonder les cases environnantes pour avoir en retour une restitution sonore et d'utiliser des principes de spatialisation du son pour pouvoir s'orienter. Donc on a des indications sur les mouvements de différents objets qu'on pourrait avoir autour de nous, qu'ils soient statiques donc, ou en mouvement. Et ben, voilà.
On aura des questions.
D'accord, très bien. Bon ben, merci à tous. Et,
non, mais enfin, conclure, prenez 30 secondes pour conclure quand même.
D'accord. Bon, ben,
si je devais conclure, c'est là on a présenté le projet, on a des prototypes. Et bon, ça c'est bien beau, il faut quand même qu'on sache si le jeu plaît, si le jeu est compréhensible, s'il est adapté aux personnes handicapées ou pas, mais aussi si le message passe. Et là, on va rentrer dans un cycle d'itération. On va tester le jeu, on va l'amener des joueurs. On peut imaginer différentes méthodes hein, pour savoir est-ce qu'ils ont compris le message, qu'est-ce qu'ils ont compris, l'ont-ils bien compris. Et en fonction de ça, on peut redesigner le jeu à chaque fois. Comme on est libre, de toute façon, on n'a pas d'objectif commercial. Donc l'idée, c'est vraiment de pratiquer des tests pour être sûr que le message sensibilisant passe. Donc voilà, c'était très short.
Vous avez une démo de jeu?
En fait, on n'a pas le droit de la montrer.
On va passer sur une série de questions-réponses. Moi, déjà, je vais commencer par une première question. Donc, vous n'avez pas d'objectif commercial. Super. Comment est-ce que vous allez distribuer le jeu? Gratuitement sur Android?
Le but au sein de Sogeti, donc comme je vous l'ai présenté à travers la mission handicap qui, on va dire, sponsorise le développement du jeu, c'est de sensibiliser en interne aux problématiques des déficients visuels. Donc, ça sera déjà une diffusion en interne au sein du groupe. Donc, qui a aussi une population de déficients visuels en interne, dont on pourra voilà, avoir des retours d'expérience.
Alors, je voulais faire une petite remarque, c'est concernant le train et le jeu du train. C'est, en fait, c'est la même chose que vous avez dite à la fin. Donc, je me demande s'il n'y a pas vous n'êtes pas un peu contredit. C'est-à-dire que, est-ce que c'est vraiment le fait qu'il y ait des règles simples qui soient importants, ou est-ce que c'est la manière dont on va raconter l'histoire autour de ces règles? Parce que le fait de finir par une pirouette en disant Auschwitz, on aurait pu avoir des règles très complexes en amont, ça changeait pas la donne en fait. Et après, vous avez introduit le fait de dire, voilà, on prend le Tetris, on l'habille différemment, et hop, effectivement, on a un contexte différent, on a contextualisé les choses de manière différente, et du coup, ça nous raconte autre chose. Donc on voit que c'est pas forcément les règles, mais c'est aussi l'histoire qui gravite autour de ces règles. Donc ça, c'était une petite remarque. Mais la question, elle était pas là. Elle était plutôt de se dire... Enfin bon, après, vous pouvez réagir, bien sûr. Mais c'était de se dire, finalement, par rapport au jeu que vous avez mis en place, est-ce que vous avez mené un état de l'art autour de ce qu'on appelle les audio games? C'est-à-dire les jeux qui sont basés uniquement sur le son.
Alors, il y en avait quelques-uns. Donc, les plus célèbres étaient Papa Sangré sur iPhone. Et si c'est intéressant, le gros problème de Papa Sangré, c'est justement le problème des cases. C'est que pour une personne déficiente visuelle, elle n'arrive pas à identifier dans quel état exactement elle est dans le jeu. Parce que dans Papa Sangré, je peux être dans cet état-là, dans cet état-là, dans cet état-là, dans cet état-là. Donc, comme c'est un état continu, c'est pas un état discret, c'est très difficile à intelligibiliser ça pour les personnes handicapées. Donc, c'est pour ça qu'on a pris le système de cases. Donc relativement ça, et c'est aussi que du coup Papa Sangré, la mécanique de base, c'est je me dirige vers un son ou j'en évite un. Il n'y a pas plus de mécanique vis-à-vis que ce que nous on a introduit. Enfin, c'est très vite, donc j'ai pas trop pu raconter comment ça marche les passages piétons. Mais du coup, on a introduit plein d'autres mécaniques comme ça sur l'idée de la mémoire de déficience visuelle avec les casques qui se rassemblissent à nouveau. Donc voilà, nous on a vu surtout Papa Sangré, on a vu quelques autres, mais c'était des jeux en 3D où on avait une balle pour je sais plus comment il s'appelle, pour y le son. Mais globalement, nous, comme on s'était parti sur un truc très simple, smartphone, on est parti là-dessus et on voit ce que ça a donné. Et juste pour la remarque du départ, effectivement, y a une tendance qui est le procéduralisme, à dire que c'est juste dans les règles qu'on comprend le message, donc c'est notamment l'argument de Bogost, mais effectivement, c'est dans la manipulation de symboles aussi. Donc c'est pour ça que avoir un contexte change complètement la donne. Et c'est pour ça qu'au départ, on était parti sur si on changeait l'univers, on prenait un truc fantaisiste, ça attirait les gens. Mais au final, on s'est dit, ben, le message, il serait pas du tout compris pareil. Même si on contextualise à la fin. Donc là, je trouve ça intéressant de noter.
Alors, j'aurais une autre question, toujours par rapport à ce jeu. Est-ce que vous savez qu'il y a un Doom qui a été transformé en version audio game?
Alors, un Doom, non, mais j'ai vu tout un tas de jeux. De mode de jeu, souvent c'est des jeux de Super Nintendo, adaptés pour les personnes déficientes visuelles. Et la plupart du temps, c'est juste qu'on rajoute des sons pour chaque chose qu'on fait, et on met un système de sauvegarde très rapide. Parce que j'ai vu des personnes déficientes visuelles jouer à par exemple des jeux comme Oddworld, qui est un jeu de plateforme. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'elles testaient, elles perdaient, elles recommençaient, mais comme ça, elles pouvaient le faire 100 fois, jusqu'à ce qu'elles connaissent le jeu par cœur. Donc elle peut arriver à s'amuser, mais c'est une autre façon de faire. Donc toutes ces règles-là, du coup, on s'est inspiré des jeux comme Zelda pour les déficients visuels. On s'est inspiré de ça pour avoir nos règles d'accessibilité, pour être sûr qu'ils comprennent.
Donc du coup, ma question, c'était, au même titre que vous nous avez fait une démonstration sur la manière dont on peut modifier l'environnement graphique pour raconter une histoire, l'habillage du Tetris, est-ce que vous avez fait un travail sur l'habillage sonore, du coup, convoquer par exemple un habillage sonore d'un jeu connu pour transporter notre joueur dans un environnement qui va lui raconter une histoire?
Alors, l'habillage sonore, pour moi, enfin, de l'habillage, il était et visuel et sonore, forcément. Donc, on n'a pas vraiment travaillé sur comment changer l'habillage sonore uniquement. Mais l'habillage sonore, c'est assez compliqué d'en parler, vu que la problématique du casque avec deux oreilles, ça fait en sorte qu'il faut des sons très clairs, très facilement reconnaissables. On ne peut pas se permettre de mettre 36 sons de voitures différentes, 36 sons. Pour que le jeu reste intelligible, il faut qu'à chaque fois que j'entends un son, je sais de quoi il s'agit. Donc on ne pouvait pas se permettre de mettre des sons vraiment différents, parce que le joueur, quand il comprend une fois que tel son correspond à telle chose, si on change le contexte du son, on met d'autres sons, ça va devenir inintelligible et il ne pourra plus jouer.
Et après, il paraîtrait que les personnes non-voyantes ont une représentation mathématique. Est-ce que c'est une donnée que vous avez intégrée ou que vous pensez intégrer dans le jeu? C'est-à-dire, il me faut faire 5 pas pour atteindre la cafetière, 10 pour atteindre les toilettes, etc. Est-ce que c'est...
Alors... Nous, on sait ce qu'on pensait au départ aussi, et d'après les quelques entretiens qu'on avait faits, c'était plus une rotation genre par repère. Alors je sais que là, j'ai marché jusqu'à tel repère, puis je mets à gauche jusqu'à tel repère. C'est pour ça que je disais avant, c'est que un chemin peut être très compliqué, mais très court. S'il y a beaucoup trop d'objets, beaucoup trop d'obstacles, il faut que je retienne plein de choses pour savoir comment me balader. Alors que si j'ai un seul repère à suivre sur 6 km, potentiellement, je sais exactement quoi suivre. Donc c'est pour ça qu'en fait, un des éléments perturbants pour les déficients visuels, c'est qu'on enlève des repères. Il y a une poubelle qui était toujours là, on leur enlève, ils ne savent plus où ils sont. Parce que c'était dans mon chemin, c'était je vais jusqu'à la poubelle, puis je fais là jusqu'à droite, et puis exactement. Donc voilà. Donc je ne sais pas si c'est tant mathématique que vraiment point par point en fait.
Merci à tous les trois.
Merci.